Alors l'actualité des sciences avec vous, Anne Becher, une actualité cette fois dans le domaine de la chimie, plus précisément relative au fameux tableau périodique. Vous savez, ce tableau qui liste et qui classe tous les éléments chimiques de base qui sont présents sur Terre. Alors tout récemment, l'Institut de recherche scientifique japonais Riken a annoncé avec beaucoup de fierté que la paternité de l'élément 113 de ce tableau périodique lui revenait, Anne.
Alors, entendons-nous bien, la découverte est bien antérieure d'une dizaine d'années, mais la mise en évidence par trois fois a été faite par cette équipe japonaise qui, du coup, remporte le droit de lui donner un nom à cet élément 113. C'est une première, d'ailleurs, pour des Asiatiques, et c'est le professeur de l'université de Kyushu, qui se situe dans le sud-ouest du Japon, parenthèse fermée, monsieur Kozuke Morita, qui a obtenu ce privilège de la part des organismes scientifiques mondiaux, soit de la part de l'UICPA, l'Union internationale de chimie pure et appliquée, et de la part de l'UIPA, l'Union internationale de physique pure. Les chercheurs seront donc invités à proposer un nom et un symbole permanent pour l'élément 113.
Alors on va essayer de comprendre l'importance de cette nouvelle et peut-être aussi de rappeler ce qu'est ce tableau périodique. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Katharina Fromm, professeure au département de chimie de l'Université de Fribourg. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, ce sont des chercheurs japonais qui se sont vus attribuer la découverte et le droit de donner un nom à ce fameux nouvel élément 113 du tableau périodique. C'est important de se voir attribuer la découverte d'un élément.
Je pense que c'est toujours un moment mythique, car ça va compléter en fait le tableau périodique, ça va compléter notre alphabet avec lequel on peut écrire les lettres de la matière, donc les mots de la matière. Mm-hmm. Et donc pour un chimiste, ça c'est toujours quelque chose d'important d'avoir un nouvel élément dans le tableau périodique, tout à fait.
Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce 113e élément temporairement nommé le... Alors, je ne garantis pas la prononciation, le unum trium.
Donc ça, c'est un élément qui n'a pas encore de nom pour le moment. Donc, on lui donne juste le numéro de l'élément du prochain tableau périodique qui n'a pas encore été découvert. Donc dans ce cas-là, le numéro 113. Mm-hmm. Et donc les éléments lourds, comme on les appelle, voire même très lourds, ce sont des éléments qui sont pas comme les éléments tels qu'on les trouve dans la nature, qui sont stables, avec lesquels on peut travailler, qu'on peut prendre dans la main ou qu'on peut toucher. Mais ce sont des éléments qui sont synthétisés par l'homme au laboratoire et qui ont des durées de vie assez courtes, donc quelques millisecondes, voire même plus court que ça. Donc on ne peut pas vraiment faire de la chimie avec, comme on fait avec la plupart des autres éléments, une bonne centaine d'éléments avec lesquels on peut bien travailler au laboratoire.
Là, mais pourtant, on l'introduit quand même dans ce fameux tableau périodique des éléments, ou tableau de Mendeleïev, puisqu'il s'appelait Dmitri Mendeleïev, celui qui a commencé. En fait, ce tableau, vous parliez tout à l'heure d'alphabet, en fait, pour écrire la vie. C'est quoi ce tableau, finalement?
En quelque sorte, le tableau périodique, il contient tous les éléments chimiques dont est fait notre monde. Donc l'hydrogène qui est le plus léger, et prenons un assez lourd, là, le einsteinium par exemple. Et donc ce sont des éléments avec lesquels on peut écrire des mots, et des mots c'est un peu l'équivalent aux molécules, si on veut, comme des mots dans un texte. Et si on met plusieurs mots ensemble, on peut écrire une phrase, on peut écrire tout un livre. Donc on peut écrire par exemple le bois ou l'eau ou l'air. Donc en quelque sorte, c'est notre alphabet à la matière.
D'accord.
Qui existe sur Terre.
Mais vous disiez justement que ces derniers éléments, là on parle du 113, mais il y en a 118 maintenant, que tous ces derniers éléments en fait n'existent pas comme ça dans la nature, ils sont créés en laboratoire. Alors pourquoi est-ce qu'on les intègre dans ce tableau?
Donc le tableau, il suit une certaine logique. Donc on a, par exemple, la première colonne, ce sont les éléments alcalins qui ont une certaine réactivité et qui se comportent de manière très similaire. Et à part le fait qu'ils deviennent de plus en plus lourds, ils ont une certaine réactivité chimique qu'on peut prédire. Donc, par exemple, on sait que le sodium, il va réagir de manière similaire au césium. Et ainsi, on peut compléter le tableau périodique. On voit actuellement, si on regarde le tableau périodique, qu'il y a encore des trous, c'est-à-dire qu'il manque encore des éléments avec lesquels on peut compléter le tableau périodique. Et donc, les chimistes sont à la recherche de ces éléments-là.
Mmh. Alors, on nous annonce également que le 115e, le 117e et le 118e vont être renommés aussi par des équipes de scientifiques russes et américains qui ont travaillé ensemble, qui ont remporté ces droits d'appellation. 115, 117, 118, c'est quoi ?
Donc, ce sont des éléments qui vont compléter la toute dernière ligne du tableau périodique, oui, vers la droite. Donc, on peut s'imaginer que c'est effectivement la continuation de l'élément oxygène. Donc, on va aller tout en bas, on va trouver un élément qui sera similaire au niveau de sa réactivité chimique, mais malheureusement avec une vie très très courte, donc on ne pourra pas l'utiliser pour construire par exemple une maison, quelque chose comme ça, mais pour le savoir, pour la science, c'est effectivement une question de principe de pouvoir compléter ce tableau périodique comme l'avait prédit Mendeleïev, c'est-à-dire de savoir, ok, là, il doit y avoir encore un élément chimique qui suit la même chimie que l'oxygène ou la même chimie qu'un halogène ou qu'un gaz noble.
Mmh. Alors voilà, et dit vous-même maintenant, enfin, ces éléments complètent, en fait, la dernière ligne, celle de tout en bas de ce tableau, hein, si, quand on le regarde, on voit qu'il est plein. Et est-ce qu'il est encore extensible ? Est-ce qu'il y a encore des éléments à découvrir ?
Alors, moi, je dirais en principe, oui. Mais il faut savoir qu'effectivement, un atome, il est fait de protons et de neutrons qui se trouvent dans le noyau, qui est tout, tout, tout petit, mais qui contient en fait la masse totale quasiment de l'atome et d'électrons qui tournent autour de ce noyau. On va dire ça de manière très, très simpliste. Mm-hmm. Mais dans le noyau, on a plein de charges positives qui vont aussi se repousser à un moment donné et donc qui font que les noyaux deviennent de moins en moins stables. Et donc les éléments de plus en plus lourds peuvent en principe exister, mais seront de moins en moins stables aussi.
Et de moins en moins faciles à découvrir, j'imagine.
Et de moins en moins faciles à découvrir, tout à fait.
Mmh. Alors c'est pas tout simple, la reconnaissance d'un nouvel élément apparemment. Kozuke Morita a mis en évidence l'existence de ce nouvel élément, la 113, à trois reprises entre 2004 et 2012. Et il faut remplir tout un tas de critères pour que les officialités scientifiques reconnaissent ces éléments-là.
Tout à fait, et souvent il y a même d'autres groupes qui vont essayer de reproduire la même expérience pour confirmer les résultats et pour dire oui, effectivement, là, c'est bien un nouvel élément chimique qui a vécu assez longtemps. Parce que si on s'imagine que le temps de vie est très très court, c'est aussi difficile de l'analyser et de confirmer vraiment qu'on a bien vu l'élément et que ce n'était pas un artefact dans la méthode analytique.
Le mot japonium serait favori pour le nommer, ce nouvel élément-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je pense que c'est bien dans la continuation de certains autres éléments, le scandium par exemple, en Scandinavie, etc. Donc il y a déjà des éléments qui ont été nommés d'après le pays où ils ont été trouvés. Le cuivre, qui se réfère à la Chypre, par exemple.
Oui.
Donc il y a effectivement déjà pas mal de ces références-là. Et il y a aussi évidemment souvent des scientifiques qui ont donné le nom à un élément comme Einstein, par exemple. Ce n'était pas Einstein qui l'a découvert, mais on l'a nommé d'après Einstein, en tout cas. Ou bien le curium d'après
Marie Curie. Oui. Ça équivaut à quoi d'être accepté comme découvreur d'un élément qui fait partie du tableau de Mendeleïev ? C'est quasiment un Nobel ?
C'est quasiment un Nobel, ça a un impact en tout cas, justement. Seulement, on va dire, le prix Nobel, c'est souvent donné pour quelque chose qui a aussi un côté pratique, qui s'applique quelque part et qui est utile pour l'humanité. Alors que là, c'est plutôt l'art pour l'art, on va dire. C'est vraiment le principe, le concept de compléter le tableau périodique. Et les éléments qu'on va trouver ne seront pas des éléments qui seront très stables et avec lesquels on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, je pense pas que ça sera très utile pour l'humanité dans l'application, mais c'est très utile pour compléter le savoir, pour comprendre aussi comment la matière est faite, jusqu'où on peut aller pour avoir des noyaux stables, etc. Donc ça, c'est pour comprendre un peu les particules élémentaires qui se trouvent dans un atome. Ça, c'est très important.
Bien, merci beaucoup, Katharina Fromm. Je rappelle que vous êtes professeure de chimie à l'Université de Fribourg. Vous avez répondu à l'invitation d'Anne Becher. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée de randonnée à ski, puisque je crois que c'est votre activité du jour.
Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup à vous aussi. Belle journée.
CQFD sur la première.